Voyage en autarcie, le podcast qui part à la rencontre des peuples méconnus à travers le monde. Sous le regard d'un voyageur occidental, je vous propose de découvrir leur origine et leur culture. Moi c'est Laurie, je suis passionnée de voyage et surtout d'aventure. Par le biais d'anecdotes croustillantes, je vous fais sortir de votre zone de confort et des sentiers battus. Pour ce troisième épisode, je vous emmène au Cambodge, dans le village de Mepring, avec le témoignage de Juliette. Une aventure inédite et pleine de surprises. Le Cambodge est situé en Asie du Sud-Est, entouré par la Thaïlande, le Laos et le Vietnam. Avec une superficie de 181 000 km², le royaume des Khmer est 5 fois plus petit que la France et se situe à 9800 km à vol d'oiseau de Paris. Comment Juliette a-t-elle atterri là-bas?
J'ai pu partir en voyage là-bas, c'était un voyage solidaire de 2 semaines. Donc le pays, en fait, m'a tout de suite plu. Leur façon de vivre, en fait, les personnes, le travail, le climat. Donc je suis rentrée en France, j'ai fini mon contrat et je suis repartie après pour un an.
Au cœur de son association, Juliette participe à plusieurs missions. Communication, export de produits, construction de puits. Elle a pu découvrir les conditions de vie des Cambodgiens, à la ville comme à la campagne.
J'avais un logement dans la capitale, à Phnom Penh, et mon travail, en fait, c'était de faire du développement rural. Donc de temps en temps, en fait, soit je restais à Phnom Penh, donc dans la capitale, à travailler, donc c'était avec mon ordinateur, je faisais des documents, l'administratif ou de la communication. Et de temps en temps, je partais aussi dans les familles, dans les villages qu'on aidait, en fait, et j'allais vivre avec eux, ça pouvait être quelques semaines ou quelques mois. Le village où j'ai passé le plus de temps, c'était le village de Mepring, dans la province de Zwei Rieng. C'est un petit village très particulier, qui est un peu en avance sur son temps par rapport au pays. Par exemple, il y a une école dans ce village où ils apprennent tout ce qui est développement durable, où ils apprennent l'écologie, ce qui est très très rare là-bas. Et la chef du village est une femme, et ça n'arrive absolument jamais. Je suis restée en tout 3 mois là-bas. C'était très très dépaysant parce qu'en fait on est passé directement de l'aéroport à un tout petit village et il faisait nuit, donc j'ai rien pu voir. Ma première impression, c'était de me dire qu'on avait une barrière énorme entre la France et là-bas en termes de culture, en termes de langage et en termes d'habitude, parce qu'on nous a tout de suite mis sur une table dehors, il fallait s'asseoir sur la table pour manger, on mangeait des choses qu'on n'avait pas l'habitude, par exemple du bambou. Et après le lendemain, quand on s'est réveillé et qu'on a enfin découvert justement le paysage, c'était trop beau, c'était magnifique, c'était une grande montagne verte, il faisait très chaud, très humide, et j'étais très 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 dépaysée par le style de vie aussi, parce que là-bas, tout est au jour le jour. Dans les campagnes, c'est un travail qu'on voit jamais ici, c'est tu vas travailler dans les rizières, tu vas produire du riz, manger le riz, vendre le riz, tu dors et tu recommences. Tout l'argent que tu reçois la journée, tu le payes pour manger. Loger la plus grande partie du temps dans la ville à Phnom Penh ou dans un appartement que je louais à une famille khmer. Donc eux, ils avaient une grande maison et moi, je vivais dans une petite partie de la maison, donc en fait, je vivais quasiment avec eux. Et sinon, quand j'allais dans les campagnes, je vivais chez l'habitant. En fait, les maisons typiques cambodgiennes, c'est des grandes cases en bois sur pilotis généralement, parce que du coup, quand il y a beaucoup de pluie, c'est préférable d'être en hauteur. Et donc je vivais dans un coin de case en fait, où j'avais une couverture par terre pour dormir, et le reste du temps c'était dehors, parce que les Cambodgiens vivent entièrement dehors.
Côté nourriture, les Khmer sont autonomes. Ils produisent des légumes et du riz en grande quantité qu'ils exportent.
Ils mangent essentiellement du riz, c'est vraiment l'élément principal de leur alimentation. Dans les campagnes, ça va être que du riz blanc, matin, midi et soir. Ou quand ils ont envie de faire un petit plus, il y a des légumes. Et quand vraiment c'est le festin, il y a de la viande aussi. Dans la ville, c'est différent, il y a de tout. Mais la cuisine khmer, je mangeais ça tous les jours parce que c'était dans mon budget et parce que c'est extrêmement bon. Donc c'est vraiment du riz, beaucoup de soupe, beaucoup de coriandre, beaucoup de nouilles aussi. La nourriture cambodgienne est très simple. C'est vraiment à base de riz et de légumes et de viande. Et voilà, c'est cuisiné différemment, mais c'est toujours à peu près les mêmes plats. Il y a le jus de coco qui est très 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 pris parce qu'ils ont énormément de noix de coco et donc ils boivent énormément de ça parce que justement il y a des vitamines dedans et puis ça leur permet d'avoir une petite boisson un peu plus fraîche. Il y a aussi le jus de canne et ça c'est très très typique aussi, ils en boivent beaucoup. Et sinon tout ce qui est shake de fruits, ça c'est plutôt dans les villes, ils vont mettre beaucoup de glaçons, des fruits de la passion notamment, des mangues.
À Phnom Penh comme à Mepring, l'hygiène est rudimentaire mais plutôt écologique.
Dans ma maison, j'avais une toute petite salle d'eau avec les toilettes et une douche qui n'était pas vraiment une douche, c'était une espèce de tuyau d'arrosage avec un petit pommeau improvisé. J'avais pas d'eau chaude pendant un an, mais ça m'a pas embêté parce qu'il fait très chaud. Dans les campagnes, c'est complètement différent. C'est toujours une espèce de cabine pour l'intimité, généralement en bois, avec un trou pour aller aux toilettes et une espèce de grande bassine d'eau avec une espèce de petite casserole en plastique, et tu te laves en fait directement dehors. Ils se lavent à l'eau, ils ont des savons, pas toujours. Généralement ils se lavent juste à l'eau parce qu'en fait ils se lavent à même le sol, et c'est ce même sol qui produit leur nourriture, donc ils ont pas de produits qui polluent. Là-bas c'est la douchette. Dans la ville il y a du papier toilette, mais partout dans toutes les toilettes, où que t'ailles, que ce soit dans les campagnes ou dans la ville, t'as la douchette. C'est un petit tuyau que tu presses avec une grande pression pour te laver, en fait. C'est limite plus hygiénique, et puis là-bas, pas besoin de papier parce que tout sèche en 5 minutes. Au tout début, je me déplaçais à pied parce qu'il faut savoir que Phnom Penh, c'est une grande ville, mais le centre de la ville, là où il y a tout, est très petit. Après, j'ai acheté un vélo parce que le trafic là-bas, il faut savoir qu'il est très très compliqué. On comprend rien, il n'y a pas de règles et il est sursaturé tout le temps. Et au bout d'un moment, j'ai acheté un scooter parce que je m'étais habituée du coup au trafic. Donc je me baladais en scooter. Et sinon, en tuk-tuk. Parce que voilà, c'est extrêmement peu cher pour faire des durées de 20 minutes. Tu vas payer 2 ou 3 dollars grand maximum. Dans les campagnes, c'était de la moto. Quand tu vas dans les campagnes très loin, en scooter, tu peux pas. J'ai été extrêmement bien accueillie par ces familles, tout simplement parce que faut savoir que là-bas, ils ont un idéal, c'est horrible à dire, hein, mais un idéal de la personne blanche européenne qui est, pour eux, de toute façon, riche, qui de toute façon va apporter une aide financière ou matérielle à un moment donné. Et en plus de ça, je travaillais dans une association qu'ils adoraient, avec laquelle ils travaillaient depuis des années, une vingtaine d'années, et donc j'étais extrêmement bien reçue. Donc c'était toujours royal, quoi. Quand j'arrivais, c'était pas la vie habituelle où on mange un peu de riz, c'était des grands buffets avec des bols avec des bouillons et un peu de viande. Pour eux, c'est un festin monumental, et donc j'étais toujours hyper bien accueillie. Ils étaient toujours extrêmement attentifs sur mes besoins, sur mes attentes. J'étais super bien accueillie. Et par la famille aussi dans laquelle je vivais à Phnom Penh, qui me connaissait pas du tout. Je me suis tout de suite très très bien entendue avec eux, avec leur petite fille qui parle anglais, qui avait mon âge. J'ai eu un très très bon feeling vraiment avec tout le monde globalement. Tout le monde est très à l'aise avec le partage, et c'est rentré dans les mœurs en fait. De toute façon, par exemple dans les campagnes, t'as pas ton assiette avec ta nourriture, c'est vraiment plein de choses éparpillées et tout le monde mange un peu à sa faim. Moi, il y avait un truc qui m'avait marqué, c'était un moment dans une campagne, quand on venait d'arriver, le tout premier jour où on est arrivé, ça nous a un peu marqué le fait de s'asseoir sur la table, mais ça nous a pas dérangé, ça nous a juste un peu étonné. Et il faut savoir qu'il y a des khmers de la famille qui ont fait toute la nuit la route à pied aller-retour dans un village proche pour aller nous chercher des chaises en plastique parce qu'ils ont cru que ça nous dérangeait. Et ils sont vraiment énormément dans l'aide, dans le partage et dans l'hospitalité. Les Khmers ont un téléphone de plus en plus, et il faut savoir que là-bas, le réseau mais que tout le monde a et où ils font absolument tout, c'est Facebook. Il n'y aura pas de télé, ils n'en ont pas l'utilité, ils ont très peu d'électricité chez eux, c'est vraiment, ça s'arrête à une ampoule, une prise de temps en temps, voilà. À un moment, j'étais allée sur une petite île vraiment reculée au fin fond du pays. Ils avaient des téléphones connectés avec les réseaux. Vraiment, Facebook, c'est l'entièreté de leur communication. Il y en a qui confondent Internet et Facebook.
Chez les Khmers, les tâches sont partagées. L'homme s'occupe des rizières et la femme des enfants, de la maison ou de la cuisine. Juliette a pu passer des moments à la fois avec les hommes et les femmes.
De manière historique et de manière culturelle, la femme ne travaille pas, la femme aide, s'occupe des enfants, elle aide à faire le ménage, et c'est encore le cas énormément aujourd'hui. La personne qui doit être riche, c'est l'homme. D'ailleurs, petite anecdote par rapport à ça, pour dire oui, on le dit différemment si t'es une femme ou si t'es un homme. Moi, si je suis une femme, je vais dire tcha, si t'es un homme, tu dis bat. Tcha, ça veut dire littéralement oui maître. Mais il y a du progrès, il commence à évoluer là-dessus, justement dans le village Mepring, c'est la femme qui gère le village, c'est la femme qui prend les décisions. Voilà, il commence à réfléchir justement à cette problématique. Le problème, c'est qu'ils ont énormément d'autres problématiques, donc ça passe généralement après, malheureusement. C'est arrivé du coup que j'aille travailler dans les rizières, donc piquer le riz, le cueillir, le couper, etc. Et c'est arrivé aussi que je reste avec les femmes et que je reste avec les enfants, que je visite le village. Il y a plein de choses à faire, il y a beaucoup de pagodes aussi, les grands bâtiments religieux. Je visitais beaucoup. Il y avait toujours quelqu'un pour m'accompagner, me faire visiter et me faire présenter à d'autres, parce que c'est assez rare que quelqu'un d'étranger, entre guillemets, arrive dans ces villages qui sont très reculés, donc je trouvais toujours quelque chose à faire.
Même les femmes haut placées lui demandent des conseils.
Je vais juste faire une réunion normalement sur un projet de poivre de compote. Et je suis arrivée sans le savoir au Sénat. Et on était reçue par la présidente du Sénat. Donc on discutait du projet pour le poivre de compote. Et à la fin, elle m'a dit, tiens, vu que t'es française, dis-moi un peu comment ça se passe toi dans ton pays. Je lui ai expliqué notre place, je lui ai parlé du féminisme, etc. Et elle m'a demandé littéralement des conseils sur comment ils peuvent s'améliorer. Ça m'a fait un peu rire à 19 ans de conseiller la présidente du Sénat d'un pays sur les relations hommes-femmes, mais voilà, c'était sympa. Ils parlent le khmer, c'est une langue avec des sonorités qui sont très particulières par rapport à nous, mais c'est une langue très très basique. Par exemple, si tu dis « je veux aller demain au marché pour acheter des pommes », tu vas dire « je aller marcher demain acheter pommes ». Dans la ville, ils parlent un petit peu anglais quand même, donc j'arrivais à me faire comprendre. Dès que tu vas dans les campagnes, rien que hello, c'est pas possible. Donc il fallait que j'apprenne le khmer à un moment donné. Donc au bout d'un moment, peu à peu, au fur et à mesure que j'y allais, ils voyaient mon évolution aussi, ils m'apprenaient beaucoup. Ils ont une religion de nationalité. Quand tu nais au Cambodge, tu es bouddhiste de nationalité. Et après, tu peux avoir la croyance que tu veux. Il y a des hindouistes, il y a des bouddhistes de croyance, chrétiens et musulmans très peu, mais il y a des animistes aussi. Les premiers jours où je suis arrivée dans une famille qui m'a loué la partie de sa maison, la grand-mère, qui s'appelle Christine d'ailleurs, elle a un prénom français, qui ne parle pas du tout français et pas du tout anglais, m'a proposé par des gestes d'aller à une conférence avec elle. Alors j'ai rien compris, j'ai dit d'accord, ok. On arrive à cette conférence et je me rends compte très vite que c'est une conférence des témoins de Jéhovah. Donc il y a une cérémonie qui se passe en khmer, je ne comprends rien. Et à la fin, c'était un peu temps d'échange et tout le monde discute. Et tout le monde était un peu surpris de voir que j'étais là, parce que je suis blanche, je ne parle pas khmer, qui suis-je? Et ils viennent tous me parler, et à un moment donné, je rencontre une japonaise qui parle anglais, qui me demande mon contact, parce qu'on sympathise, et je lui donne mon Facebook, et là-bas, elle a vu une espèce d'interface sur Facebook, où elle voyait que mes initiales, donc je m'appelle Juliette Wibo, mes initiales c'est JW. JW, c'est ce qui était inscrit partout sur les murs, parce que c'est Jehovah Witnesses, ils ont eu très peur, et il y a eu un espèce de mouvement de masse où tout le monde a cru que j'étais un message, que j'étais là pour une raison, parce que j'étais le JW, parce qu'ils savent pas, ils parlent pas anglais, ils savent pas que JW c'est Jehovah Witnesses, mais ils voient JW, ils se disent c'est la personne qui devait venir, la personne qui doit nous aider. Et donc j'ai dû partir très vite en tuk-tuk parce que les gens voulaient trop me parler et voulaient avoir beaucoup d'aide de ma part que je pouvais pas du tout leur apporter.
Après un an à vadrouiller sur les routes du royaume des Khmers, il est temps pour Juliette de rentrer en France.
C'était très compliqué, il faut savoir que moi je suis extrêmement sensible, notamment humainement, et là-bas je suis partie toute seule, donc en fait j'ai un peu tout créé dans ma vie, donc j'ai créé mes habitudes, j'ai créé mon groupe d'amis, j'ai trouvé mon logement, j'avais mes habitudes, j'avais tout, et j'ai eu énormément de mal à rentrer. Mon retour s'est fait difficilement parce que je devais rentrer à une période où c'était le Covid. Ce qui m'a fait bizarre, c'est que rien n'avait changé en France, alors que moi, il s'était passé tellement de choses en un an. La vie était restée pareille et moi, j'avais tellement de choses à raconter, tellement de choses à dire que j'avais une énorme frustration et c'était très dur pour moi de quitter tout ce que j'avais là-bas. Ça l'est encore d'ailleurs maintenant et l'organisme français qui m'a envoyé a très bien géré ça en nous faisant voir des psys parce que c'est très compliqué. Mais voilà, après je relativisais en me disant que de toute façon j'allais y retourner, que c'était pas des rencontres perdues. Mais ça m'a aussi appris à me détacher des gens que je rencontrais parce que moi là-bas dans ma tête ça allait durer toute ma vie quoi. Alors que non, faut rentrer.
Nous arrivons à la fin de ce troisième épisode de Voyage en Autarcie. J'espère vous avoir donné envie de tenter cette expérience par vous-même et que cette aventure dans le royaume des Khmers vous aura inspiré. Merci à vous d'avoir suivi ce chapitre au cœur de la vie cambodgienne, illustré par le récit de Juliette. N'hésitez pas à liker et partager. On se retrouve dans un prochain épisode de Voyage en Autarcie. D'ici là, portez-vous bien et comme diraient les Khmers, Lihoy.